Le cancer est sans doute la maladie la plus redoutée par les hommes. À lui seul, son nom évoque les peurs liées au comportement anormal, à la prolifération de nos cellules. Le cancer existe depuis des millénaires et c'est l'anarchie qui s'installe au sein de notre organisation cellulaire qui est à l'origine de cette maladie. Depuis longtemps, des hommes et des femmes se battent pour comprendre ce qui se passe au sein de nos 100 000 milliards de cellules afin d'identifier les caractéristiques de la maladie et trouver les meilleures parades pour éliminer ce crabe aux pinces parfois très solides. Et si nous étions sur le point de maîtriser les cancers à une échéance très courte, mon invité en est convaincu. C'est l'objet du livre qu'il publie, La défaite du cancer, aux éditions Jean-Claude Lattès. Laurent Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes chirurgien-urologue. Vous avez été chirurgien-urologue et vous dirigez actuellement DNA Vision, une société de séquençage ADN. Et dans votre livre, donc, vous affirmez que les thérapies géniques pourraient parvenir à maîtriser tous les cancers d'ici une quinzaine d'années. C'est l'objet de la discussion que nous allons avoir ensemble dans quelques minutes. L'occasion également d'évoquer donc les héros de cette lutte historique contre la maladie. Et on se retrouvera avec les questions des auditeurs qui nous rejoignent déjà en direct sur franceinter.fr et sur les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Et puis vous entendrez pour la dernière fois le quiz de la tête au carré en fin d'émission. Notre jeu va s'arrêter dès lundi pour laisser place à un nouveau rendez-vous d'actualité scientifique. On vous en reparlera. Violaine Ballet est aux commandes de l'émission qui a été préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Sophie Bécherel.
Bonjour.
On parle de climat avec vous aujourd'hui, avec les 10 premiers mois de l'année qui ont été les plus chauds depuis 1900, c'est ce que nous apprenait Météo France.
Oui, avant même que notre année 2014 soit finie, l'agence effectivement annonçait que cette année serait en France dans le top 3 des années les plus chaudes depuis le début du XXe siècle, exactement d'ailleurs comme le reste de la planète. Même si l'été a été plutôt pourri, vous l'aurez remarqué, la température moyenne de la période janvier-octobre 2014 dépasse la normale de près de 1,1%. C'est notamment dû à un étonne météorologique très doux, avec des températures de 2 à 3 degrés au-dessus des normales. Et puis par exemple, des mois assez exceptionnels. Janvier, le thermomètre a carrément grimpé à 2,7 degrés au-dessus de la normale. Février, c'était 2,1 degré.
Ça veut dire qu'on sait par avance que les mois de novembre et décembre n'auront pas d'incidence a priori sur le record ?
Effectivement, parce que novembre est dans la même tendance. Et puis en décembre, à moins que le thermomètre ne descende, vous voyez, à des moins 5, moins 10, en tout cas,
c'est mal parti,
moyenne, voilà, de 3 degrés au-dessous de la moyenne normale. Effectivement, c'est ce que nous annonce Météo France. Alors, qu'est-ce qui explique cette météo exceptionnelle ? Écoutez, interrogé par Philippe Prandet, l'ingénieur de Météo France, François Gourand.
Il y a deux phénomènes qui rentrent en compte. D'un côté, les courants de sud-ouest qui ont été dominants durant de nombreux mois, donc qui forcément nous amènent de l'air plus doux. Et de l'autre côté, évidemment, tout ceci s'inscrit dans un contexte plus large et plus global de réchauffement de la planète. Le lien, on ne le fait pas directement entre cette circulation de sud-ouest et le réchauffement climatique, mais le fait que ce soit plus chaud à l'échelle globale fait que de toute manière, les courants de sud-ouest sont aujourd'hui probablement plus chauds que les mêmes courants de sud-ouest qui auraient pu se produire il y a 50 ans ou 100 ans dans une situation météorologique similaire.
Alors Sophie, c'est vrai qu'on se demande s'il y a un lien entre cette météo annuelle locale et le changement climatique.
Clairement, quand vous discutez désormais avec des prévisionnistes, ils sont beaucoup, beaucoup moins réticents à rapprocher les deux, alors que c'était encore le cas il y a une vingtaine d'années.
Exactement. Il y a très peu de temps.
Ils avouent que le changement climatique global a un impact sur notre météorologie, avec des vagues de froid qui diminuent, et à l'inverse, des vagues de forte chaleur et de canicule qui ont tendance à se multiplier. Ce qu'il faut noter, c'est que nos années records à nous, 2003, 2011 et 2014, donc, ne sont pas les mêmes que celles à l'échelle de la planète.
Ouais, je crois que c'est 98, 2005, 2010, vous me le rappeliez, à l'échelle mondiale qui ont été les années les plus chaudes.
Mais dans les deux cas, vous remarquez quand même que ce sont des dates récentes, les 15 à 25 dernières années. L'effet de serre dû à nos émissions de gaz issues pour la majeure partie de la combustion du pétrole, du gaz et du charbon ne cesse de s'intensifier, nous rappellent les scientifiques. Alors le sujet est particulièrement d'actualité puisque, faut-il le rappeler, nous sommes à un an de la prochaine conférence des Nations Unies Paris Climat 2015 et la thématique est en train de monter à la fois dans les médias mais aussi dans le discours politique.
Et justement, pour s'informer et comprendre les enjeux de ce bouleversement climatique, vous nous signalez une initiative qui s'appelle Science à cœur.
Oui, en fait, ce sont les établissements universitaires réunis dans le pôle Sorbonne Université, dont l'Université Pierre et Marie Curie, qui ont décidé de se mobiliser activement pour donner au public des éléments d'information et des clés de compréhension. Pendant un an, 26 conférenciers, alors des experts, des chercheurs en climatologie, en sciences humaines également, en environnement, vont participer à 18 soirées autour de cette thématique, le changement climatique. Ça se passe deux jeudis soirs par mois, de 18 à 20 heures, en trois cycles. D'abord, comprendre le climat et le système Terre, ensuite climat et écosystème, et enfin climat et société de demain. Vous n'avez pas oublié que nous sommes jeudi.
Ce soir
a lieu donc la deuxième conférence de ce cycle, avec Stéphane Foucard, journaliste au Monde, et Katia Laval, du laboratoire de météorologie dynamique qui est un laboratoire mixte, parce que le titre de la conférence, c'est « Regards croisés autour des fondamentaux du climat, science et médias ».
Et voilà. Ça se passe au campus Jussieu, mais également sur le web, pour voilà, tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas à Paris.
Voilà, c'est sur le web, ce qui fait qu'en région, mais aussi à l'étranger,
voilà. En direct,
on peut, exactement,
on
en direct, 18-20h, et en plus, une bibliographie vous est fournie. Bref, vous voilà. Devez être incollable l'an prochain.
Sur le climat pour préparer la conférence et bien évidemment le lien est sur la tête au carré, hein, Sophie, pour ceux qui souhaitent donc participer à ce rendez-vous ce soir. Merci beaucoup, à très bientôt.
Le blouson clôté sur mes épaules de bleu. J'aimerais bien parfois chanter autre chose que la zone. Un genre de chanson d'amour pour ma petite Amazon. Pour celle qui, tous les jours, partage mon cassolet, ma gonzesse. Celle que je suis avec, ma princesse. Celle que je suis son mec. Oh, oh, oh. Faut dire qu'elle mérite bien que je lui consacre une chanson. Vu que je suis amoureux d'elle, un peu comme dans les films. Il y a tout plein de violons quand les héros, ils meurent. Dans les bras d'une infirmière qui est très belle et qui pleure. Et puis elle est balancée un peu comme un maïol. Tu sais bien les statues du jardin des Tuileries qui vers comité excite le qui vole et se gèle le cul et le reste aussi. Ma gonzesse, que je suis avec ma princesse, celle que je suis son mec. Oh, oh, oh. Il faut dire qu'elle a les yeux qui sont tellement beaux. On dirait bien qu'ils sont bleus, on dirait des calots. Parfois, quand elle me regarde, j'imagine des tas de choses que je réalise plus tard quand on se trouve toute seule. Si tu me dis qu'elle est moche, que tu lui manques de respect, je t'allonge une avoine, ça sera pas du cinoche. Mais si tu me dis qu'elle est belle, comme je suis très jaloux, je t'éclate la cervelle, il faut rien dire. Celle que je suis avec ma princesse, celle que je suis sans mec. Oh, oh, oh. Oh.
Ma gonzesse et Arnaud, que vous avez reconnu à l'instant donc sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Le sujet dont nous allons traiter ce soir suscite toujours beaucoup d'émotions et il suscite aussi une grande crainte, une crainte souvent mal motivée, parce que le cancer n'est pas une maladie comme les autres. Le cancer, c'est un mal un peu diabolique, un mal tabou. Et cela à cause du mystère qui l'entoure. Alors ce que nous allons faire ce soir, l'ambition de cette émission, c'est de dissiper ce mystère, de démythifier le cancer, de montrer que son secret sera bientôt percé et qu'il sera vaincu un jour. Quand ? Peut-être le saurons-nous à la fin de l'émission. Comment ? Certainement en augmentant les possibilités thérapeutiques et de diagnostic précoce, mais surtout en essayant d'aller plus loin dans les travaux fondamentaux sur la nature même de la vie, car le cancer y est associé.
Voilà, et ça c'était en 1980, extrait de l'émission L'avenir du futur que présentait Robert Clark. Et si nous étions justement aujourd'hui en 2014, quasiment à la veille précisément de la victoire sur le cancer, certains en sont persuadés, c'est votre cas, Laurent Alexandre. Vous publiez La défaite du cancer, histoire de la fin d'une maladie aux éditions Jean-Claude Lattès. Et c'est le thème de l'émission avec les messages qui arrivent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Laurent Alexandre, 1980, qu'est-ce qu'on savait justement à l'époque ?
Pas grand-chose. On connaissait très mal la génétique du cancer. C'est-à-dire on savait pas bien comment naissait le cancer. C'est à partir de 1990 qu'on a commencé à comprendre qu'il y avait des anomalies génétiques dans le cancer qui entraînaient la prolifération des cellules grâce aux travaux de gens comme Weinstein, Anana, etc. En 1980, ça restait une boîte noire. On ne connaissait pas grand-chose.
Ouais, et aujourd'hui, la boîte noire est ouverte, hein, justement.
Elle commence à s'ouvrir.
Laurent Alexandre, vous êtes un homme pressé, iconoclaste, agitateur d'idées. Est-ce que vous êtes un visionnaire ou un utopiste lorsque vous annoncez que dans 15 ans, nous aurons maîtriser le cancer, pas éradiquer, hein.
Oui. Soyons clairs, hein. Moi, je ne prétends pas du tout qu'il n'y aura plus de cancer en 2030, il y en aura toujours. En revanche, je pense que le cancer sera devenu une maladie chronique comme le sida l'est aujourd'hui. Comme vous le savez, l'espérance de vie des gens atteints de sida en 1985 était de 11 mois. Aujourd'hui, elle est presque normale. Les sidéens ne perdent que 2 ans d'espérance de vie par rapport aux gens qui n'ont pas le sida. Je pense que dans le cancer, nous sommes rentrés dans une phase identique. Le cancer va devenir une maladie chronique, une sale maladie qu'il faut absolument éviter par la prévention. Mais une fois qu'on aura un cancer, on sera face à une maladie chronique et pas face à la mort comme on l'est aujourd'hui dans 50% des cas, puisqu'il y a encore 50% des cancéreux qui meurent de leur cancer.
Ouais, ce qui est étonnant, c'est qu'on a beaucoup plus de recul par rapport au cancer que par rapport au sida, précisément. Pourquoi on a autant de mal à faire de même que
Parce que le cancer est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, la biologie de la cellule cancéreuse est extrêmement compliquée. Il y a des mutations de l'ADN de la cellule tumorale qui apparaissent au cours de l'évolution de la tumeur et qui rendent les traitements très difficiles parce que ces mutations des chromosomes de la tumeur lui permettent de résister aux différentes thérapeutiques que l'on donne aux malades pour lutter contre son cancer.
Donc on a une difficulté supplémentaire qui explique aussi aujourd'hui qu'on n'est toujours pas, au fond, les bons outils pour maîtriser totalement la maladie.
Mais on commence à bien comprendre le cancer. C'est-à-dire que maintenant, grâce à l'analyse des chromosomes des cellules tumorales, c'est-à-dire on prend un petit morceau de tumeur et on analyse l'ADN de la tumeur, on commence à comprendre les modifications biologiques de la tumeur, ce qui ouvre la porte aujourd'hui à un traitement personnalisé, c'est-à-dire de donner des traitements adaptés aux mutations qui sont présentes dans le cancer de chaque malade. Parce qu'il n'y a pas 2 cancers identiques. Chaque cancer est une maladie orpheline. Chaque cancer a des mutations génétiques différentes. Si vous prenez 2 femmes qui ont un cancer du sein, en fait, ça n'est pas la même maladie. Ce sont 2 maladies différentes. Chaque cancer est une maladie orpheline, c'est une maladie spécifique. Et ça, en 1980, on ne pouvait pas l'imaginer.
D'où l'idée de cibler vraiment maintenant avec les traitements et de connaître parfaitement la génomique de la personne.
La génétique de la tumeur, c'est-à-dire quelles sont les mutations que présente votre cancer à vous et qui ne vont pas être les mêmes mutations que celles qui vont être présentes chez un autre malade.
Ouais. Jacques demande, est-ce que le cancer est une maladie moderne et est-ce que dans le passé, elle était connue sous un autre nom ?
Alors, la plupart des cancers n'étaient pas identifiés comme des cancers avant. On appelait ça des abcès. On appelait ça des grosseurs et on ne savait pas ce qu'était le cancer. Mais il y a plus de cancers aujourd'hui, non pas à cause de l'environnement, mais parce que comme le cancer est une maladie qui touche plutôt les personnes âgées, à part certaines formes de cancer qui touchent l'enfant, quand l'espérance de vie en France en 1750 est de 25 ans, on ne risque pas de faire un cancer de la prostate, on ne risque pas de faire un cancer du côlon, qui sont des maladies qui arrivent après 50 ans. Donc plus la population vieillit, plus il y a de cancers. Donc il y a un effet d'optique qui fait croire qu'il y a une explosion des cancers. Alors qu'en fait, il y a simplement une augmentation des personnes âgées et ce sont elles qui font des cancers.
Oui, plus particulièrement, même si des enfants, évidemment, développent des cancers.
Ce sont des formes de cancers très particulières qui sont dues à des causes différentes des cancers de l'adulte.
Oui, pourquoi dites-vous que l'environnement n'est pas lié justement dans l'augmentation des cancers alors qu'on connaît bien les causes aujourd'hui épigénétiques, hein ?
Alors, il y a des causes environnementales au cancer. Je ne dis pas du tout que l'environnement n'est pas responsable. La plupart des cancers sont liés à des causes liées au mode de vie. Notre consommation de graisse, l'obésité, l'amiante, les rayonnements, certains médicaments, le tabac, l'alcool, les virus, bien sûr. Non, je disais, l'essentiel de l'augmentation des cancers n'est pas lié à l'environnement, c'est lié au fait qu'on vit plus vieux. Thomas, mais l'environnement joue un rôle.
Thomas nous dit ceci, étant donné que le cancer est un dérèglement de nos propres cellules, que les cellules tumorales sont très gourmandes en sucre et que nous mangeons actuellement plus de sucre que jamais, est-ce qu'on peut imaginer que le cancer soit une sorte d'adaptation du corps à un excès qu'il n'arrive pas à gérer?
Non, alors on mange trop de sucre, ça c'est sûr, mais c'est pas parce qu'on mange plus de sucre qu'on fait des cancers. Cela dit, un tout petit peu parce que l'excès de sucre est responsable de l'obésité et d'une bonne partie des obésités, et l'obésité favorise un certain nombre de cancers.
Alors qu'est-ce que c'est? Parce que justement, il y a le cancer pour les nuls au début du livre, ce qui n'est pas inutile pour en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement même de cette maladie. C'est quoi? C'est une anarchie au fond des cellules? Vous parlez de délinquance, vous, cellulaire.
Oui. C'est-à-dire que des mutations arrivent dans une cellule. Des mutations de l'ADN d'une cellule arrivent. En général, le système immunitaire et un certain nombre de protéines organise la mort de cette cellule pour éviter qu'elle se divise. Dans un certain nombre de cas, la cellule n'est pas tuée par le système immunitaire et par la régulation, et donc elle va commencer à se diviser avec ses mutations. Et puis elle va acquérir de nouvelles mutations de plus en plus jusqu'à grossir et donner des métastases. C'est effectivement un refus pour une cellule d'obéir aux règles de l'organisme. C'est effectivement un mécanisme anarchique, c'est une délinquance de la cellule, parce que normalement, quand une cellule a des modifications de son ADN, elle doit se suicider. C'est dans son programme génétique d'organiser ce suicide. Il y a des protéines dans nos cellules qui sont justement organisées pour que la cellule se suicide quand elle se rend compte qu'elle est mutée. Parce qu'en permanence, la cellule ausculte ses chromosomes, ausculte son ADN, et elle regarde s'il y a des mutations, s'il y a des cassures de l'ADN. Et quand ces mutations, ces cassures ne sont pas réparées, elle se suicide. La cellule se fait harakiri. Dans un certain nombre de cas, elle ne se fait pas harakiri.
Voilà.
Et donc là, elle se multiplie et elle va donner un cancer.
Et c'est là qu'effectivement, les cellules quittent le destin collectif, comme vous le dites, pour développer
des
maladies.
Mais des anomalies de nos chromosomes, il y en a beaucoup. Chaque seconde, nous avons des milliers de milliards de cassures de nos chromosomes. Chaque seconde, des milliers de milliards de cassures de nos chromosomes qui sont, dans l'immense majorité des cas, bien réparées. Et de temps en temps, elles ne sont pas bien réparées et c'est l'antichambre du cancer.
Est-ce que justement, on peut imaginer qu'on fabrique des cancers sans le savoir dans notre organisme?
En permanence.
C'est ça.
Des cellules potentiellement cancéreuses, nous en avons en permanence, et elles se suicident le plus souvent ou elles sont détruites par le système immunitaire, parce qu'il y a des globules blancs spécialisés dans la recherche et la destruction des cancers. Donc des cellules cancéreuses, nous en produisons en permanence, nous en produisons beaucoup. Heureusement, la plupart ne donnent pas des cancers à la fin. Elles sont détruites par les mécanismes de régulation de l'organisme.
Oui, Françoise demande, est-ce que le cancer est une maladie qui touche les pygmées d'Afrique ou les Indiens d'Amazonie? Bref, est-ce qu'il y a des peuples qui ne connaissent pas le cancer?
Alors, tout le monde a des cancers. Il n'y a pas d'hommes sans cancer. Il n'y a pas d'espèce d'hommes sans cancer. En revanche, les peuples que vous avez cités n'ont pas une espérance de vie très longue. Mm-hmm. Et donc, ils font moins de cancers parce qu'ils meurent plus jeunes. Comme nous faisions moins de cancers quand l'espérance de vie à Paris était de 25 ans.
En tout cas, une lutte qui est sur le point d'aboutir, selon vous, grâce à la grande révolution NBIC. C'est comme ça qu'on le dit?
Oui, N, c'est les nanotechnologies, les technologies qui permettent d'agir à l'échelle du milliardième de mètre. B, c'est la biotechnologie, I, l'informatique. Et puis C, c'est la cognitique, c'est l'intelligence artificielle, la robotique. Toutes ces technologies qui vont permettre de mieux traiter le cancer, de le dépister de façon extrêmement précoce et de mieux comprendre la biologie de chaque cancer pour lutter de façon personnalisée contre nos tumeurs.
Et on va en parler avec vous. C'est l'arme, en tout cas, que vous préconisez et dont vous sentez qu'elle va absolument permettre la maîtrise de la maladie. Le cancer sera vaincu, en tout cas maîtrisé, dites-vous, en 2030. Les héros du cancer, avant justement d'arriver sur les traitements 2.0 et cette boîte donc qui est aujourd'hui ouverte et qui permet de maîtriser déjà la maladie. Vous avez choisi de raconter l'histoire donc de ces hommes et de ces femmes qui ont lutté donc contre les cancers, qui en ont écrit aussi les grands chapitres. Ça commence quand, au fond, l'histoire de la cancérologie?
La cancérologie moderne, c'est la fin du 19e siècle. Les Allemands commence à penser qu'il faut regarder au microscope les tumeurs et qu'il faut mieux connaître la tumeur, alors que les Français là-dessus sont très en retard à l'époque, malheureusement. Et donc Rodolphe Virchow est le premier à regarder les cellules cancéreuses au microscope et à comprendre qu'elles sont anormales. À partir de là, on va sortir du rapport un peu magique avec les tumeurs et on va commencer à avoir un raisonnement scientifique.
Ouais. Donc on est dans le diagnostic du cancer, là,
déjà? On est dans le diagnostic du cancer.
Ouais. Et ces travaux sont à l'origine donc de très grands progrès.
De très grands progrès. On va regarder au microscope de plus en plus les cellules cancéreuses, on va voir les différents types d'anomalies cellulaires et ça va nous permettre de réfléchir aux raisons de cet emballement cellulaire.
Il y a un autre grand nom que vous évoquez, Laurent Alexandre, c'est le physicien Henri Becquerel. Écoutons ensemble l'extrait d'un film de André Labarthe qui avait été tourné en 1956.
Le 24 février 1896, on s'apprêtait à fêter la venue du nouveau siècle. tandis que de belles dames descendaient en calèche l'avenue du Bois de Boulogne et que d'audacieux sportifs se lançaient en tricycle autour de la pelouse de Longchamp, un homme à l'air austère suivait le quai Conti pour se rendre à l'Académie des sciences. Il s'appelait Henri Becquerel. Son nom n'était pas très connu du grand public, mais il jouissait d'une excellente réputation dans le milieu des académies. 8 années auparavant, il avait été élu membre de l'Institut et il se dirigeait cette fois-ci vers l'Académie des sciences en tenant très soigneusement dans sa poche un cliché photographique qui était pour lui encore plein de mystères.
Voilà Becquerel, Laurent Alexandre, qui découvre par hasard, hein, 1896, la radioactivité, qu'on n'appelle pas comme ça d'ailleurs.
Qu'on n'appelait pas ça comme ça. Hein. Bah, le début des rayons X, hein, Becquerel et puis Marie Curie ont été extraordinaires parce qu'ils ont permis de mieux voir les tumeurs et puis aussi de commencer à lutter parce que avec la chirurgie, le premier traitement du cancer, ça a été de mettre des produits radioactifs. Hein. C'est-à-dire, on a eu l'idée de mettre des aiguilles de radium dans les tumeurs. Et puis rapidement, on a eu l'idée de mettre la tumeur sous le feu des rayons X. C'était très, très préliminaire. Il y avait beaucoup d'effets secondaires parce qu'on ne savait pas bien diriger le faisceau. Mais ça a été une arme extraordinaire dès le début du XXe siècle.
Et la radiothérapie qui est toujours massivement utilisée aujourd'hui. Hein.
Massivement. Au moins un malade sur deux a des rayons au cours de l'évolution de son cancer.
Un petit mot sur la chimiothérapie aussi, puisqu'elle fait partie de cette grande histoire de la cancérologie.
Alors la chimiothérapie, on peut dire qu'elle a été inventée par Farber aux États-Unis. C'est une histoire très curieuse. Pendant la guerre, il y a des soldats américains en Italie qui sont soumis à un gaz chimique et on se rend compte qu'ils ont une baisse de leurs globules blancs. Et donc là, les chercheurs américains se disent « mais si ça fait baisser les globules blancs, ce gaz toxique, on pourrait peut-être l'utiliser dans les leucémies où il y a une augmentation incontrôlable des globules blancs ». Et effectivement, ça a marché, c'est le début de la chimiothérapie dans les leucémies.
Un autre grand nom, c'est le chirurgien Pierre Denoy, qui est sans doute le seul praticien français dont les travaux sont connus de tous les cancérologues du monde. Alors le grand public ne le connaît pas, mais...
Oui, c'est lui qui a inventé la classification TNM. T pour tumeur, N, node, c'est-à-dire les ganglions, et M, les métastases. C'est-à-dire qu'il y a une classification unique dans le monde pour classifier chaque tumeur. Et donc, il a fait faire Denoy, après ses travaux entre 1940 et 1943, il a fait faire des progrès absolument extraordinaires à la cancérologie parce que tous les cancérologues du monde parlent une même langue, qui est la langue TNM de cette classification universelle des tumeurs.
Alors, dans tous ces acteurs, évidemment, de la cancérologie, il y a une femme dont il faut parler, c'est Henrietta Lacks, qui était actrice, d'ailleurs, sans le vouloir véritablement. Et il faut expliquer cette histoire quand même incroyable.
Incroyable. C'était une pauvre noire qui a été violée par son cousin, violée sans doute beaucoup de fois et qui a fait un cancer de l'utérus très rapide, ce qui arrive quand on n'a pas d'hygiène sexuelle. Et elle est morte très jeune. Et au moment où elle est morte, on a prélevé un petit morceau de son utérus et ses cellules avaient un pouvoir de multiplication extraordinaire.
Incroyable.
Il y en a eu des millions de tonnes produites sur Terre depuis les années 50. Et elle se multipliait tellement que finalement, les chercheurs du monde entier l'ont utilisée comme matériel cellulaire. Et dans tous les laboratoires du monde, il y a des cellules d'Henrietta Lacks, des cellules là. La famille n'était pas au courant. La famille a découvert ça il y a quelques années.
C'est ça. Il n'y a pas eu d'autorisation.
Les chercheurs du monde entier utilisent des cellules d'Henrietta Lacks et ça a fait faire des progrès immenses à la science, alors même que la famille n'était pas au courant qu'on avait prélevé des cellules de leur ancêtre.
Henrietta Lacks, voilà, pour retenir son nom. Laurent Alexandre, on se retrouve dans un instant. Il y a beaucoup de messages des auditeurs et puis on va passer dans la deuxième ère au fond de la cancérologie et puis dans ce que nous vivons aujourd'hui avec les traitements 2.0. I'm hot like the prodigal son. Big a battalini, mini, money, mo, and flower. You're the chosen one. I'm
heart is gone.
Left Hand Free avec Algie sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Laurent Alexandre, la défaite du cancer chez Jean-Claude Lattès, les messages des auditeurs franceinter.fr. Maddy nous dit ceci, les cellules cancéreuses se développeraient dans un milieu acide, or les sucres, café, tabac, protéines animales sont très acidifiantes pour le corps. Est-ce que remonter le pH par l'alimentation permettrait de voir résorber les cellules cancéreuses?
Alors ce que l'on sait, c'est qu'effectivement l'excès de protéines, l'excès de sucre, l'excès de poids, une ration alimentaire trop riche favorise le cancer. Donc il est clair que pour réduire le cancer, il faut ne pas fumer, se faire vacciner contre les virus qui donnent le cancer, pas trop picoler, pas trop d'alcool, et puis avoir une alimentation équilibrée avec beaucoup de fruits verts, de légumes, surtout ne pas être obèse.
Alors l'ADN, on n'en a pas parlé encore, et pourtant le cancer, c'est une maladie avant tout de l'ADN.
Le cancer,
c'est le grand tournant en matière de cancérologie.
Le cancer est toujours une maladie de l'ADN, mais la confusion que fait le public, c'est de penser que sous prétexte que c'est une maladie de l'ADN, c'est forcément une maladie héréditaire. Donc le cancer est lié à des anomalies de l'ADN de la cellule, mais dans 85% des cas, c'est l'environnement qui a créé cette anomalie. Et dans 15% des cas, on avait la mutation, on avait l'anomalie de l'ADN le jour de sa naissance. Donc le cancer est dans 100% des cas une maladie de l'ADN, mais qui n'est héréditaire que dans 15% des cas. Dans 85% des cas, c'est l'environnement et notre mode de vie qui a entraîné les cassures de l'ADN.
Alors parmi les grandes figures justement de cet ADN, il y a Greg Venter, il y en a eu d'autres avant lui, hein, évidemment, mais il faut en parler parce que c'est un personnage assez iconoclaste lui aussi, le flibustier, le pirate de l'ADN,
oui,
il a tous les noms, on ne l'aime pas beaucoup. Hein.
C'est un peu le savant fou, et puis il s'est opposé à la nomenclature de la recherche, il a eu une approche génétique absolument géniale.
Il faut dire qu'il ne respecte pas du tout le code du milieu.
Hein. Il ne respecte aucun code, il est insupportable, et donc il n'a pas été très aimé par les autres généticiens, ouais. Mais c'est lui qui a trouvé l'idée pour arriver à faire le premier séquençage humain, une technique qu'on appelle d'un nom barbare le shotgun, mais c'est lui qui a eu l'idée qui a permis la démocratisation du séquençage ADN. Et à ce titre-là, il est très haut dans le panthéon des gens qui ont œuvré pour la lutte contre le cancer.
Mais les institutions ne l'aiment pas beaucoup, effectivement. Même non. Si on pourrait lui attribuer un prix Nobel, hein, Greg Venter.
Oui,
hein.
Bien sûr.
Bon, il a quoi, 70 ans là maintenant?
Oui, il faut que le Nobel se dépêche, qu'il ne passe pas sous un tramway.
On est passé au stade 2.0 grâce à lui en fait, hein.
Oui, bien sûr. C'est grâce au séquençage ADN qu'on a compris la complexité de la biologie des tumeurs. On avait complètement sous-estimé le nombre d'anomalies biologiques qu'il y avait dans une tumeur avant d'arriver à séquencer les tumeurs. On se rend compte que les tumeurs ont des centaines, des milliers de mutations de leur ADN et donc de changements dans leur biologie. Et c'est grâce à Venter qu'on a pu réussir le séquençage des tumeurs.
Laurent Alexandre, justement, vous êtes à la tête de la société de séquençage DNA Vision. Qu'est-ce que ça permet de voir alors exactement? Comment vous travaillez? À quoi
alors,
ça sert? Et
moi,
à qui
pas,
vous vendez vos...
Moi, je ne vais pas parler de ce que je fais parce que je ne suis pas là en tant que représentant commercial, bien sûr. Je vais décrire ce que la science fait aujourd'hui. Alors, la génétique, elle permet de faire trois choses aujourd'hui. Elle permet de faire un diagnostic ultra précoce des tumeurs, parce que même quand une tumeur est trop petite, elle envoie il y a un peu de son ADN qui passe dans la circulation sanguine. Et donc, en faisant une prise de sang chez les gens, on peut repérer des années avant que le cancer soit visible au scanner ou à l'IRM, on peut repérer ces mutations dans le sang. Et ça, c'est une grande voie d'avenir pour faire des diagnostics très précoces.
Oui.
La génétique permet aussi autre chose. Elle permet, en séquençant la tumeur, une fois que la tumeur est malheureusement là, de voir les anomalies biologiques de la tumeur et donc de donner un traitement qui va être parfaitement adapté aux mutations de votre tumeur à vous.
Ouais, sauf qu'on on les donne à qui ces données alors, effectivement ?
Ah bah, à des gens qui font ce qu'on appelle du data mining, c'est-à-dire qui analysent les données. Hein. Le séquençage d'une tumeur, c'est 10 000 milliards d'informations, donc c'est beaucoup de données. Il est clair que ça ne rentre pas dans le cerveau du cancérologue. Il faut forcément des ordinateurs très puissants pour analyser ces données.
Ouais, mais on ne les vend pas aux particuliers. C'est-à-dire, si je veux savoir exactement quel est mon ADN, mon génome...
Non, mais ça, c'est pas du ressort du particulier. Il faut mettre des limites au consumérisme médical. Ça, c'est du ressort du cancérologue, c'est pas du ressort du particulier. Vous savez que je suis le créateur de Doctissimo, mais je ne vais pas jusqu'à penser que les particuliers peuvent gérer leur cancer.
Oui, sauf qu'aux États-Unis, on vend ce type de données.
Oui, non, mais pas une fois que la tumeur est constituée. Pour les facteurs de risque, oui. Une fois que la tumeur est constituée, je vous assure... Aucun particulier n'est capable de traiter 10 000 milliards d'informations.
Le dépistage très précoce, hein, c'est ce
dépistage
que vous disiez.
Très précoce.
Ça, c'est
le
très
séquençage
important.
Des tumeurs, c'est très important. Et puis la troisième voie, c'est une voie qui est plus récente et qui a permis des rémissions spectaculaires. C'est de prendre les globules blancs du malade ou des globules blancs d'un patient et puis de faire des manipulations génétiques pour changer certains morceaux d'ADN du globule blanc et doper le globule blanc de manière à lui faire attaquer les cellules cancéreuses. Et ça a permis des mutations, enfin des rémissions tout à fait spectaculaires. Il y a une petite fille américaine de 7 ans qui était en train de mourir d'une leucémie et qui a été traitée par cette technologie-là il y a 3 ans et elle est toujours en vie. Donc cette nouvelle technique qu'on peut appeler une espèce de thérapie génique pour doper les globules blancs et les rendre plus forts contre le cancer, elle est très très, très prometteuse et on peut penser que dans les 5 à 10 années qui viennent, ça va devenir une partie importante du traitement contre le cancer.
Laurent Alexandre, la prévention grâce à une première mondiale, une équipe niçoise qui a mis au point un test sanguin qui permet la détection d'un cancer du poumon avant même qu'il ne soit visible à l'imagerie. C'est très récent, c'est un immense pas dans la médecine moderne qui vient d'être accompli par le professeur Paul Hoffmann du CHU de Nice et par son équipe. On l'a joint hier par téléphone. Il nous a expliqué d'abord sur quel type de personnes il a pu travailler.
Il faut cibler une population à très haut risque de faire un cancer du poumon. Donc ce n'est pas uniquement les patients tabagiques qui n'ont pas cette maladie particulière qu'on appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc c'est une maladie finalement pulmonaire qui est déclenchée souvent chez les sujets qui fument depuis très longtemps, depuis 20 à 30 années, avec une forte exposition tabagique. Pas uniquement, hélas, c'est-à-dire qu'il y a d'autres maladies qui donnent ce qu'on appelle des BPCO, donc ce type de pathologie. Donc on a ciblé vraiment une pathologie à très haut risque. Et effectivement, plusieurs années avant l'apparition d'un cancer sur le plan pulmonaire au niveau de l'imagerie, on a détecté dans le sang des cellules cancéreuses qui circulent comme des sentinelles avant-gardistes finalement de l'arrivée de ce cancer au niveau du parenchyme. Oui.
Ce qui permettrait évidemment de gagner beaucoup de temps avant l'apparition de la maladie.
Alors en fait, ça permet surtout de dépister des patients qui peuvent être éligibles pour une intervention chirurgicale puisqu'on sait que le cancer du poumon ne peut être en principe guéri uniquement lorsqu'il est opéré et non pas lorsqu'il est en phase métastatique où là, les traitements sont uniquement des traitements médicamenteux.
Il y a encore des questions qui se posent justement sur vos travaux. Est-ce que déjà vous êtes dans une phase de reproduction de ce test ? Est-ce que d'autres équipes travaillent pour essayer de voir s'ils obtiennent les mêmes résultats que vous ?
Effectivement, il faut impérativement, vu le faible échantillonnage de patients que l'on a testé initialement, il faut reproduire à plus grande échelle ces résultats. Donc on a prévu, grâce à un support financier local, de valider ces résultats déjà en local, mais ce qu'il faut faire impérativement, c'est une validation dans un autre centre hospitalo-universitaire en France. Oui. Et donc pour l'instant, on est en attente de levée de fonds pour pouvoir faire ce type d'approche. C'est l'objectif numéro un de mon équipe.
C'est ça, c'est crucial, hein, évidemment, pour vous, pour pouvoir donner la preuve aussi de l'efficacité de ce test.
Alors, c'est évidemment crucial. Il faut ensuite réagir très vite, puisque ce type de test peut être développé également dans d'autres pays, notamment en Amérique du Nord, où la réactivité est souvent beaucoup plus importante.
Une dernière question, Paul Hoffmann. Est-ce que vous partagez l'optimisme de Laurent Alexandre quant à la maîtrise de tous les cancers à l'horizon 2030 ? Est-ce que vous avez aussi cette vision avec l'idée que les cancers pourraient devenir des maladies chroniques ?
Alors, totalement. Ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est qu'il n'y a pas un seul type de cancer, mais plusieurs types de cancers. Donc, on sait déjà qu'environ 50% des cancers peuvent être guéris actuellement. Il y a beaucoup de cancers, comme les cancers du sein, pas mal de leucémies, etc., où les patients peuvent être non seulement en rémission, mais en guérison. Donc ça, c'est depuis plusieurs années, c'est un fait acquis. Pour d'autres cancers, et en particulier comme le cancer du poumon, on peut penser qu'à l'horizon 2030-2050, ces maladies seront des maladies chroniques, comme d'autres maladies chroniques non cancéreuses. Et donc les patients vont suivre finalement des traitements pendant plusieurs dizaines d'années. Donc je partage tout à fait ce point de vue. Il y a d'autres cancers, il faudra vraiment trouver des découvertes encore plus importantes. Il y a des cancers qui sont beaucoup plus agressifs, où là, il y a encore beaucoup de progrès à faire.
Voilà, le professeur Paul Hoffmann du CHU de Nice, Laurent Alexandre. Donc là, on est dans la détection des cellules circulantes.
Hein. Très précurrente, oui.
C'est pas votre voie de prédilection.
C'est très proche. Hein. Soit on recherche directement l'ADN dans le sang, soit on recherche des cellules cancéreuses. Ce sont deux voies très proches et qui, en fait, vont converger vers une seule technologie dans les années qui viennent. Ce qu'a fait le professeur Hoffmann est tout à fait remarquable. Bon, ses travaux doivent être salués.
L'ADN, c'est une autre démarche? Vous dites que ça se ressemble beaucoup, mais
dans un cas, on recherche l'ADN libre dans le sang du malade. Dans l'autre cas, ce qu'a fait le professeur Hoffmann, c'est de chercher les cellules cancéreuses. Ce sont deux approches très proches.
Alors, l'intelligence artificielle, ça va révolutionner la cancérologie aussi?
Comme beaucoup de choses. Vous savez, vous regardez la Google Car, la voiture de Google qui se conduit sans conducteur automatiquement. La puissance des serveurs informatiques est multipliée par 1000. Donc, pour comprendre des objets et des choses aussi compliquées qu'une cellule cancéreuse, il faut bien sûr de l'intelligence artificielle.
Parlez-nous de Watson, cet oncologue un peu particulier.
Alors, Watson, c'est le système expert d'IBM, qui est notamment développé par IBM pour faire des diagnostics médicaux. Watson est capable d'analyser des centaines de milliers d'articles médicaux en quelques secondes. Il est capable d'analyser l'ADN, la biologie des tumeurs de façon exceptionnelle. Récemment, Watson a analysé en quelques secondes l'ensemble de la littérature scientifique, c'est-à-dire des articles scientifiques, des données médicales sur une mutation impliquée dans le cancer, sur la protéine P53. Il a fait ça en quelques secondes. Les gens d'IBM ont calculé qu'un cancérologue aurait mis 38 ans, jour et nuit, sans dormir, sans prendre de vacances, uniquement pour lire les articles scientifiques, sans même faire le diagnostic. Vous voyez que face aux milliers de milliards de données que génère la biologie et la génétique du cancer, l'homme a besoin de systèmes experts, d'ordinateurs, parce que aucun praticien n'est capable d'analyser des milliers de milliards d'informations pendant une consultation de 10 minutes.
Ouais, cet ordinateur, donc, ça veut dire qu'il est capable de diagnostiquer les cancers mieux qu'un oncologue?
Il est capable de faire la synthèse des données biologiques du cancer. Aujourd'hui, dans certains cas, mieux qu'un oncologue, à l'horizon 2025-2030, mieux qu'aucun médecin de façon à peu près certaine. Mais les médecins ne vont pas disparaître, ils vont simplement voir leur métier muter, changer.
Oui, il va falloir qu'ils s'y préparent quand même. Hein.
Il va falloir que les médecins se préparent.
Ils devraient déjà le faire d'ailleurs, apparemment.
Il est urgent que les médecins comprennent bien la révolution des nanobiotechnologies et la révolution informatique. Les médecins ont pris un peu de retard en informatique. Il est temps qu'ils se saisissent de ce sujet.
Oui. Les thérapies ciblées, donc on en parlait tout à l'heure, ça c'est vraiment la voie. Précisément, ce sont tous ces outils qui vont permettre d'aller cibler directement.
Tous ces outils convergent. Il y a aussi de nouvelles techniques chirurgicales, de nouvelles techniques de radiothérapie. C'est l'ensemble de ces progrès qui va nous permettre de rendre le cancer une maladie chronique. Mais je tiens quand même à préciser quelque chose. Il ne faut pas se remettre à fumer. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que la meilleure prévention du sida, c'est pas la trithérapie contre le virus du sida, c'est le préservatif et d'avoir une hygiène sexuelle sérieuse. Et dans le cancer, le meilleur traitement du cancer, c'est pas les nanobiotechnologies et c'est pas les thérapies génétiques. Hein. Le meilleur traitement du cancer, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, de dépister le cancer précocement, de ne pas fumer, de ne pas être obèse. Surtout que les gens n'entendent pas mon message comme une incitation à augmenter leurs facteurs de risque, c'est absolument pas ce qu'il faut faire.
Mais par contre, vous évoquez effectivement tous ces nouveaux outils qui font progresser considérablement la prise en charge de ces maladies.
Mais le meilleur outil va rester la prévention et ce sera toujours vrai en 2030.
Le data mining oncologique.
Alors le data mining oncologique, c'est d'arriver à mettre en ordre ces milliers de milliards de données qu'on a grâce à la génétique sur les cellules cancéreuses. Alors c'est très compliqué. Finalement, ça fait ressembler le cancérologue à un physicien nucléaire ou à un astrophysicien, aux gens qui cherchent le boson de Higgs et qui génèrent des milliers de milliards d'informations. Ce que la médecine n'a jamais fait. La médecine générait quelques poignées d'informations. C'est la première fois que les médecins au travers du développement de ces technologies-là, se mettent à traiter des milliers de milliards d'informations. Et donc le data mining, qui n'est pas du tout dans l'esprit des médecins, c'est-à-dire d'aller chercher dans toutes ces, dans ces mines de données, va devenir quelque chose d'essentiel en médecine et va profondément réorganiser la façon dont les médecins travaillent. Et si les médecins ne se saisissent pas de ces sujets-là, ils perdront le pouvoir médical au profit des entreprises informatiques.
Là, très net ou pas ? Est-ce que les Américains, les Chinois sont
plus
avancés ?
Non, on n'a pas de retard en cancérologie. En revanche, on a un retard en informatique qui est très important. Vous savez bien, Google, Apple, toutes ces sociétés qui commencent à se développer dans le monde de la santé, elles sont américaines, elles sont californiennes, elles ne sont pas françaises. Google devient un des leaders mondiaux dans la lutte contre le cancer et la lutte contre la maladie. Et Google, à l'évidence, n'est pas une société française. Google a beaucoup investi dans l'analyse des données en cancérologie, notamment au travers de FlightAron, DataNexus, Calico. Et maintenant, Google est en train de développer dans son laboratoire secret Google X, ils l'ont annoncé il y a 10 jours, une technologie pour repérer les anomalies des années avant que la maladie apparaisse grâce à des nano-implants, c'est-à-dire des petits moteurs, des petits implants à l'échelle du milliardième de mètre qui rentreront dans nos cellules, qui analyseront ce qui se passe dans nos cellules et qui enverront avec un espèce de canal Wi-Fi, qui enverront des données vers des détecteurs extérieurs pour signaler qu'une maladie approche.
Brigitte nous dit ceci, il est faux d'expliquer le doublement des cas de cancer en 30 ans seulement par le vieillissement de la population, quid par exemple des perturbateurs endocriniens, cas de nombreux pesticides et l'augmentation des cancers hormonodépendants.
Je n'ai jamais dit que j'expliquais l'augmentation des cancers uniquement par le vieillissement. J'ai dit que c'était une part importante de l'augmentation des cancers qui était liée au vieillissement, mais il y a aussi des facteurs environnementaux. Cela dit, certains facteurs environnementaux sont en train de s'arranger, de mode de vie. On fume moins aujourd'hui qu'on fumait en 1975, donc le cancer du poumon passé un certain seuil, parce qu'il y a une inertie, va rebaisser dans les années qui viennent. Il y a bien évidemment des facteurs environnementaux qui sont en cause. On connaît le drame de l'amiante. Il y a d'autres produits chimiques que nous utilisons aujourd'hui et qui seront probablement cancérigènes sans que nous le sachions. Il faut être très vigilant dans l'utilisation de nouveaux produits chimiques, bien évidemment.
Dominique nous dit, est-ce que ce n'est pas gênant de dépister trop précocement de toutes petites tumeurs, sachant qu'elles disparaissent souvent spontanément ?
Oui, alors il y aura un équilibre à trouver. Et il faudra que nous ayons des indicateurs nous permettant de savoir si ces toutes petites tumeurs que nous repérons vont être éliminées par le système immunitaire ou vont se développer. Et de toute façon, si on les détecte, on n'est pas obligé de donner un traitement tout de suite. On peut faire une surveillance en reproduisant le test pendant un certain temps. Et une fois qu'on se rend compte que cette microtumeur est pérenne, à ce moment-là, l'attaquer par
Sauf
un traitement.
Le problème aussi, c'est de savoir est-ce qu'il faut le dire ou pas à la personne. Parce que savoir qu'on a des microtumeurs et ne pas le savoir, c'est quand même pas la même chose.
Ça va être une
Il y a des questions éthiques aussi.
Ça va être une grosse question. Comme vous savez, aux États-Unis, on dit tout aux malades, y compris aux enfants. Quand un malade a un cancer, on lui explique qu'il va mourir. Dans des pays comme la France, les malades supportent très mal qu'on leur dise la vérité.
Oui, mais si on
ils demandent souvent la vérité, mais quand on leur dit la vérité, ils s'effondrent.
Sauf que quand on voit les choses de plus en plus tôt, on n'a pas envie de savoir
bien
à 15
sûr.
Ans
là,
qu'on va
peut-être... Je parlais des cancers très évolués. Oui. Il semble que dans des pays où les gens croient moins en Dieu qu'aux États-Unis, c'est le cas de la France, les gens supportent moins la vérité. Aux États-Unis, on annonce à quelqu'un qu'il va mourir dans 15 jours. Tout le monde prie et on attend de se rapprocher du Seigneur. En France, vous n'avez pas intérêt à annoncer un malade qui va mourir dans les 15 jours parce que, vous savez, on a déjà vu des malades qui se défenestrent tellement ils dépriment. Donc, le rapport à la vérité en matière de cancérologie, il est très variable d'un pays à l'autre. Et dans des pays comme le nôtre, il faut faire attention parce qu'on a souvent des mauvaises surprises quand on dit trop crûment la vérité aux malades.
Laurent Alexandre, la défaite du cancer, histoire de la fin d'une maladie, le sous-titre est discutable, hein, vous êtes d'accord ?
Cette maladie va devenir une maladie chronique progressivement.
C'est pas la fin, c'est la maîtrise.
C'est la maîtrise de la maladie. Mais je répète mon message principal qui est qu'il faut d'abord éviter le cancer et que les gens doivent avoir une hygiène de vie la meilleure possible.
Allez, c'est chez Jean-Claude Lattès. Merci Laurent Alexandre d'être passé cet après-midi dans La Tête au Carré. Beaucoup de messages et vous pouvez d'ailleurs poursuivre vos échanges sur le site de l'émission franceinter.fr et podcaster cette émission pour la réécouter sur le même site bien sûr.
Ready by the gateway to take my love away, and I can't believe that you're real.
Motors, Airport, quelques souvenirs grâce à Jean-Michel Montu qui signe la programmation musicale de La Tête au Carré. Dernier quiz de la semaine avec Florence Porcel. Bonjour Florence.
Bonjour Mathieu.
Vous nous présentez nos deux candidats du jour.
Avec joie, on accueille Manon et Clément, bonjour.
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 Bienvenue à tous les deux. Manon, il paraît que vous avez une bouillotte sur la tête en ce moment, est-ce que c'est vrai?
Oui, je suis malade.
Ben alors, vous êtes au lit alors, tranquillement?
Non, je suis pas au lit, mais gros
pull, tisane. Bon, j'espère que vous allez vous soigner rapidement. Mais c'est l'occasion, par contre, de nous suivre en direct, pour le coup. Qu'est-ce que vous faites à Toulouse, Manon?
Je suis étudiante en philosophie et anthropologie.
Très bien. Face à vous, donc, se trouve Clément, qui a le même âge que vous, 29 ans, mais qui, lui, est dans le Nord, à Hazebrouck.
C'est ça. C'est une ville entre Lille et Dunkerque, à peu près.
Dans le Nord-Pas-de-Calais. Et vous êtes infirmier, Clément, c'est ça? Vous êtes déjà...
Je suis infirmier libéral sur Hazebrouck.
Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, je vous souhaite bonne chance à tous les deux. On va jouer avec un partenaire qui s'appelle Arte Édition, Florence.
Mais oui, et nous offrirons au gagnant ou à la gagnante le DVD Sacré Croissance, un documentaire de Marie-Monique Robin. Bonne chance à tous les deux.
Allez, Manon et Clément, on va voir si vous avez été attentifs à l'actualité récente de ces derniers jours. Dimanche dernier, très exactement, le 23 novembre, un équipage d'astronautes a décollé de Baïkonour pour rejoindre la Station Spatiale Internationale. Et parmi eux se trouvait une Européenne. Quelle est la nationalité de cet astronaute de sexe féminin? Donc, c'est parti. Manon et Clément. Pardon?
Une Anglaise?
Non, ni française ni anglaise. C'est la première fois que son pays représente
les...
Non. On en a beaucoup entendu parler car c'est la première... De son pays à aller dans la Station Spatiale Suédoise. Internationale. Pardon, Clément ?
La Suède ? Une Suédoise ?
Non.
Non, non.
Apparemment, vous n'avez pas suivi ses aventures.
J'ai pas l'impression.
Il paraît qu'elle est très présente sur les réseaux sociaux.
Oui, très sur Twitter, oui.
Ouais.
Non, pas d'idée ?
Alors, on aurait pu faire le tour de l'Europe ensemble. Elle est italienne.
Elle est italienne, oui. Elle s'appelle Samantha Cristoforetti et c'est la première femme italienne à aller dans l'espace. Elle est arrivée lundi matin, heure française, dans la station spatiale avec un astronaute russe et un astronaute américain. Et ils rejoignent la première femme russe dans l'ISS.
Donc deux femmes.
Voilà, deux femmes dans l'ISS en ce moment. Ouais. Parmi les autres grandes premières de cette mission, une machine à café a été amenée aussi. Elle pèse 20 kilos et les ingénieurs ont dû la concevoir en prenant en compte notamment les effets de la mécanique des fluides qui sont différents en apesanteur.
20 kilos la machine à café, non, c'est pour faire des cafés très très serrés, j'imagine. Voilà, donc vous avez fait connaissance, Manon et Clément, avec Samantha Cristoforetti, c'est ça.
Exactement.
Hein. Allez, zéro point pour l'instant, mais vous allez vous rattraper avec les questions de rapidité. 7 questions pour vous, 1 minute 30 pour y répondre. Et si vous êtes d'accord, on va commencer tout de suite, Manon, Clément.
Oui.
Allez, on lance le chrono. Première question. Quel film multi-oscarisé raconte l'histoire justement d'une astronaute en danger de mort à cause de débris spatiaux?
Gravity.
Gravity, Manon, bonne réponse. Les trapèzes, sont-ils des os, des muscles ou des ligaments?
Des ligaments.
Des os.
Non, c'est, pas de chance, c'était les muscles. Quelles sont les deux lettres qui forment le symbole chimique de l'or? Ça vous dit rien? Allez, on passe à la quatrième question. Comment s'appelle l'unité qui permet de mesurer la définition d'une image numérique?
Pixel.
Pixel, bonne réponse Clément. Comment appelle-t-on le courant océanique de l'Atlantique qui s'étend entre la Floride et le Groenland, pardon?
Le Gulf Stream.
Bonne réponse. Quel animal ressemblant à la fois à un zèbre et à une girafe a été découvert en 1901? C'était le nom d'un magazine d'ailleurs pour...
Okapi,
bonne réponse Clément. Comment appelle-t-on la science qui étudie les malformations congénitales?
La tératoanthropologie,
vous y êtes presque.
Oui. La tératogénie?
Non, mais vous êtes bien avec tératou en tout cas. La science.
Tératologie,
bing, bah ouais. C'est Manon qui a pris l'avance. Et puis enfin, il nous restait cette question à laquelle vous n'avez pas répondu. Quelles sont les deux lettres qui forment le symbole chimique de l'or? Allez Manon, Clément, des propositions. Il y a deux lettres. Non. Aïe, dommage.
Non.
Et apparemment, vous ne vous êtes pas fait aider par Internet, parce qu'il suffisait de taper symbole chimique or sur votre clavier et vous auriez trouvé
A et U.
Et U, voilà, le symbole chimique de l'or. Alors, tératologie, vous avez vraiment tendu la perche à Manon, Clément, hein?
Ben un peu, ouais.
Ben oui. Bon, mais c'est elle qui a donné la bonne réponse, donc je ne peux pas vous accorder les points.
Oui, c'est ça.
Allez, on fait le total justement, Florence?
Mais oui, on a 10 points pour Manon et 15 points pour Clément. Petite
Allez,
avance pour
quand
Clément.
Quand même une avance pour Clément. Allez, le mot mystère pour terminer. Et pour vous répartir les points, ce mot mystère, vous l'avez sous les yeux, Manon. Vous le faites découvrir à Clément, c'est vous qui commencez?
Oui.
Allez, 45 secondes, bonne chance à vous, c'est parti.
Alors c'est un terme qui désigne un idéal qui est censé, enfin, supposé être inatteignable. Thomas More en a parlé.
C'est voilà, un pays imaginaire au départ.
J'ai pas entendu le début, vous pouvez redire le début? Alors ça désigne un idéal qui est parfois qualifié d'inatteignable. Et c'est le nom d'un ouvrage de Thomas More.
Le meilleur des mondes?
Non, pensez vraiment au terme, c'est un seul mot. Le pays imaginaire où un gouvernement idéal règne sur un peuple heureux, par exemple.
Un idéal politique, un idéal social.
En science-fiction, on utilise le terme aussi. C'était l'utopie, tout simplement.
Oui, effectivement. Oui,
oui. Bon, Clément, c'est à vous. Ne vous vengez pas sur Manon, surtout. Hein.
Non, pas du tout.
Allez, vous avez 45 secondes. C'est à vous.
Ça va être assez simple. Alors là, on cherche un mot. C'est un pirate informatique, en fait.
Un hacker?
Eh ben voilà. Aïe. Alors là, vous avez renversé la situation, Manon.
Oui, ouais.
Florent avait de l'avance tout à l'heure, mais je crois que c'est Manon qui a repris la main.
Eh ben oui. Et du coup, c'est Manon qui remporte le jeu avec 20 points contre 15. Vous étiez très serrés tous les deux.
Quel suspense!
Tout peut arriver. Hein.
Tout peut arriver jusqu'au bout dans ce quiz de la tête au carré. C'est absolument incroyable. Vous en avez été encore la preuve vivante. Allez, qu'est-ce qu'on remporte aujourd'hui, Florence?
Eh ben, on va offrir à Manon le documentaire de Marie-Monique Robin qui s'appelle Sacrée Croissance chez Arte Éditions. Alors, c'est une enquête qui explore les voies alternatives possibles à la croissance actuelle et illimitée.
Voilà et on va offrir aussi un tube d'aspirine à Manon pour qu'elle se soigne bien.
Exactement.
Avec un petit pot de miel, un petit jus de citron.
Oh, du miel Radio France, voilà. On en fait ici.
Allez, prends rétablissement, Manon. Bravo à vous. Et puis, Clément, vous êtes très bien défendu. Je vous souhaite de bonnes choses à Hasbrook, d'où vous nous appeliez. A bientôt à tous les deux, au revoir.
Au revoir.
Voilà, et c'était le dernier quiz de la tête au carré, puisque notre jeu disparaît. Eh bien oui, Fabrice Ouvrel, c'est comme ça. Il faut inventer de nouvelles choses, et ce sera le cas dès lundi, avec un nouveau rendez-vous d'actualité scientifique. On vous expliquera tout ça la semaine prochaine. Fabrice Drouel, affaire sensible dans un instant, ça ne disparaît pas.
Ah bah non, écoutez...
Vous parlez de quoi aujourd'hui?
L'assassinat des moines de Tibérine en mai 1996 en Algérie. Pour nous éclairer, nous avons invité le journaliste Jean-Pierre Tucquois, qui a couvert ces années de guerre en Algérie pour le journal Le Monde et qui écrit le livre Paris-Alger, le couple infernal.
Allez, à tout à l'heure après les infos.